Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Laurence de Coq à la bibliothèque universitaire de Saint-Serge à Angers le 24 avril 2023. Elle venait discuter de son essai « Une journée fasciste ». Célestin et Élise Freinet, pédagogues et militants, en réponse à l'invitation d'un collectif angevin antifasciste. J'ai pu rencontrer Laurence de Coq avant la conférence. Je l'ai d'abord remerciée pour cet essai si riche et si clair, qui permet de penser et de comprendre les affrontements politiques autour de l'école aujourd'hui. Deuxième partie de la rencontre avec Laurence de Coq. Comment expliques-tu que Freinet ait publié ce texte, sachant qu'il était dangereux pour lui? C'était sûr.
Alors en fait, Célestin Freinet avait pris un engagement vis-à-vis des enfants qui étaient... Il travaillait avec des enfants qui avaient des difficultés de lecture et d'écriture. Et donc le texte libre avait pour vocation à désinhiber les enfants et à les rendre fiers de ce qu'ils pouvaient produire. Et ça reposait sur un contrat. Et le contrat, c'est tu écris ce que tu veux. Et donc, fort de cette liberté qui fait partie des préceptes de cette pédagogie, fort de cette liberté, Célestin Freinet ne pouvait pas rompre le contrat et dire là, il y a quelque chose d'interdit qui a été écrit. Par ailleurs, il s'agit d'un rêve. Et Freinet était féru de psychanalyse. Et on est au début de la psychanalyse. Hein. Il lisait beaucoup la psychanalyse, ça l'intéressait beaucoup, et notamment la psychopédagogie, on appelait ça à l'époque. On appelait ça comme ça à l'époque. Et donc, lui, ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il y avait derrière ce rêve. Et bon, on savait déjà que derrière un rêve, il y avait l'inconscient, et que rêver de tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a envie de tuer quelqu'un. Donc, voilà. Et donc il a tenu parole, en fait, et il a accepté que ce texte soit publié. Alors, par ailleurs, il y avait tout un système aussi de choix par les élèves collectivement des textes à imprimer. Et il se trouve que les élèves avaient choisi ce texte-là. Donc, ils ne pouvaient pas reculer. Et puis, il y en avait d'autres, hein, des textes qui ont créé problème. Au moment où le texte de Diaz a été découvert, évidemment, ils sont allés farfouiller pour en trouver d'autres. Alors, il y en avait un autre où c'était des gamins qui buvaient le vin de messe et donc ils étaient ivres morts. Il y en avait un autre où ils ne voulaient pas partir à la guerre. Donc, de toute façon, dans beaucoup de textes, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et Freinet était assez sûr de lui, c'est-à-dire que lui, il savait qu'il n'était pas en train d'endoctriner les élèves, il était dans autre chose avec eux, il était dans une autre démarche, et notamment la démarche de réfléchir à l'imaginaire, à comment les faire entrer dans la lecture, dans l'écriture, dans le plaisir de l'écriture surtout. Donner une dignité aussi à ce que les enfants produisent. Donc il était dans d'autres trucs. Et je crois que... Je suis même pas sûre qu'il y avait une part de... Comment dire, de provocation. Je crois même pas. Je crois qu'il était dans son rôle d'instituteur. Il pensait pas que ça allait prendre ces proportions-là.
Enfin, quand même, tu racontes que la violence montait avant cette journée-là.
La violence montait, mais... Alors, l'affaire des placards, elle est quelques mois avant la journée. Donc en fait, le moment le plus violent, c'est entre l'affaire des placards et la journée. Là, il savait qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'il avait, il avait alerté sa hiérarchie, etc. Ce qu'il n'attendait pas, c'était la réaction au moment du rêve, au moment de la découverte du rêve de Diaz. Ça, il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi violent. Et aussi qu'il ne s'attendait pas à ce que l'institution s'y mette, parce qu'elle s'y est mise, parce que ça a déclenché une enquête de l'administration. Donc, non, il a été, je crois, assez pris au dépourvu sur l'amplitude, en fait, de la violence que ça a déchaîné. D'autant que pendant cette période-là de quelques mois, entre le moment des placards de rêve et la manifestation, il y a eu carrément une campagne nationale, médiatique, de la part de l'extrême droite, donc une campagne et régionale et nationale, de la part de l'extrême droite et notamment de la part de l'Action française. Et par exemple, Charles Maurras, qui était la figure éminente du journal de l'Action française, il a consacré une trentaine d'articles, et en une de l'Action française. L'Action française, c'est des dizaines de milliers d'exemplaires quotidiens. Donc, c'est remonté jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, c'est vraiment devenu une affaire nationale, et ça, je pense qu'il ne s'y attendait pas du tout à ce que ça ait une telle envergure, en fait.
Tu expliques qu'il a fait la guerre de 14-18 et que c'est pour cela qu'il possède une arme. Mais comment expliques-tu qu'il ait réagi avec une arme alors qu'il était pacifiste ?
Alors, d'abord, la première chose, c'est que ça ne lui a pas été tant reproché que ça. Moi, c'est ça qui m'a surprise aussi, parce que la scène est extraordinaire. Elle a une puissance lyrique énorme. On imagine ça aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, laisse tomber. Enfin, le prof, il est immédiatement démis, etc. Là, pas du tout, hein. Donc, quand j'ai constaté que ça ne lui avait pas été autant reproché que ça, il y a plein de choses qui lui étaient reprochées, mais par exemple, c'était beaucoup plus grave. Le rêve de Diaz était beaucoup plus grave que le fait qu'il soit descendu avec un revolver. Donc ça m'a fait dire que la place du revolver dans les années 30 n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et que finalement, beaucoup de personnes étaient armées. Alors, c'est pas simplement... c'est pas lié tellement aux suites de la Première Guerre mondiale. Hein, c'est plutôt lié au fait qu'on est dans les années 30, qu'il n'y a pas encore une législation très précise là-dessus, et que, notamment, la figure, en fait, de l'autodéfense, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, c'est assez communément admis. Voilà. Alors, lui va dire que c'était son revolver. Élise, plus tard, quand elle va en parler, elle va dire non, c'était pas à lui, c'était des familles qui lui avaient prêté pour qu'il se protège. Parce que plus tard, quand Élise va raconter l'affaire, là, le revolver a plus le même statut dans la société. Donc elle savait que ça craignait un peu comme histoire, quoi. Mais quand on regarde le procès-verbal, c'est vraiment son revolver à lui. Donc en fait, à la fois, c'est un geste qui est spectaculaire et qui, évidemment, nous dit plein de choses, notamment, surtout, de la conviction de Célestin Freinet, de l'urgence de défendre l'école, et notamment l'école publique, parce qu'il y était vraiment attaché, comme une moule à son rocher. Donc ça dit ça, et ça dit aussi ce que ça signifiait se défendre dans les années 30, mais ça montre aussi que c'était un geste qui était aux yeux des autorités et de l'administration considéré comme moins violent, par exemple, que le fait d'accepter qu'un enfant écrive qu'il avait rêvé qu'il tuait le maire.
Donc en fait, ce qui lui est reproché, c'est de laisser les enfants parler.
Oui, et puis surtout de faire de la... En fait, il soupçonnait qu'il faisait de la propagande communiste. Voilà. Et donc, il subvertissait les enfants et qu'il fallait à tout prix leur retirer... lui retirer de ses mains, ouais, parce que il allait formater des petits rouges, quoi. Ça, surtout, qui lui est reproché. Et puis, bien sûr, du coup, de ne pas être, le porte-parole d'un ordre républicain, dominant... patriotique, nationaliste, voilà tout ce qui était à l'époque très en vogue dans l'école traditionnelle.
Et alors, pourquoi sa pédagogie est-elle aujourd'hui moins visible que celle de Montessori, par exemple ?
Il y a plein de raisons. La première raison, c'est que c'est pas une pédagogie bling-bling. C'est pas une pédagogie qui permet de se transformer en marque qu'on va mettre sur des boîtes de jouets pour les vendre trois fois plus cher comme la boîte Montessori. Montessori, c'est des objets essentiellement, et c'est une réflexion sur une pédagogie très individuelle, très individualiste. C'est l'accompagnement au plus près des besoins de l'individu enfant. C'est pas du tout le cas de Freinet, qui lui a une pédagogie qui est une pédagogie qui est une réflexion sur le collectif, sur la coopération. Et puis surtout une pédagogie qui met en avant les enfants les plus pauvres. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas le vent en poupe. C'est que lui, il assume, il a écrit un livre qu'il a appelé « Pour l'école du peuple hein, », donc il assume d'avoir ce qu'il appelle une pédagogie prolétarienne, c'est-à-dire en direction des enfants les plus démunis. Donc là on a les principales raisons pour lesquelles c'est une... Et puis par ailleurs il assumait aussi d'être un militant pédagogique très marqué à gauche Et Montessori, elle se disait apolitique, elle se disait neutre, ce qui est faux, hein, parce qu'en réalité, elle ne l'était pas. Mais comme tous les gens qui se disent apolitiques, ils sont de droite, quoi, on peut dire. Voilà. Donc elle se disait neutre, apolitique, et dans le monde de l'école, quelqu'un qui se réclame d'un militantisme très marqué à gauche, il est frais parce que justement on a l'impression qu'il ne va pas pouvoir se départir de son appartenance politique lorsqu'il est en classe et qu'au lieu de faire de l'enseignement, il va faire de l'endoctrinement.
J'ai aussi le sentiment que Freinet fait partie de la pédagogie dite nouvelle, mais il ne cherche pas à vendre son nom, contrairement à Montessori, par exemple.
Alors ça, c'est oui et non, parce que Montessori fait aussi partie de l'éducation nouvelle. Hein. Ils sont tous les deux quasiment cofondateurs de la galaxie de l'éducation nouvelle. Donc c'est pas tellement le fait d'appartenir à l'éducation nouvelle qui fait que l'une aurait souhaité que son nom soit promu et pas l'autre. Non, c'est vraiment un rapport au politique, en fait. C'est que Montessori, c'est une entrepreneuse. C'est une entrepreneuse, et Célestin Freinet n'est pas du tout un entrepreneur, c'est un pédagogue. Voilà. Et c'est vraiment deux postures, deux rapports différents à l'enfant, au métier, à l'institution scolaire. Alors c'est deux traditions nationales différentes aussi. Elle est italienne, hein, elle n'est pas française. Hein. Elle, par exemple, l'attachement à l'école publique, ça ne lui parle pas en fait. C'est pas tellement un truc qui l'intéresse plus que ça, à Montessori. Mais donc c'est pas tellement le fait d'appartenir à l'éducation nouvelle, parce que l'éducation nouvelle a produit le pire comme le meilleur, c'est ça que je veux dire. L'éducation nouvelle, c'est aussi l'école des Roches, qui est une école à destination des enfants de l'aristocratie. C'est l'école alsacienne où Papendia a mis ses enfants. Donc c'est pas du tout une garantie d'être une école pour tous, pas du tout.
Oui, c'est une autre pédagogie. Pas forcément pour tous.
Voilà, ouais.
Merci beaucoup.
Merci.
Florence de Kock écrit, page 73. Célestin et Élise Freinet sortent très éprouvés de cette période. Comment continuer à lutter pour une institution qui ne veut plus d'eux? Tel est le dilemme qui se pose à ces défenseurs d'un modèle d'école qui n'imaginaient jusqu'ici que publique et gratuite. Les circonstances les mènent à revoir leurs projets, mais sans renoncer à leurs idéaux pédagogiques et politiques. Puis, plus loin, elle écrit, page 76, « La sanction tombe le 21 juin. Le préfet Benedetti annonce son déplacement d'office. Votre attitude incorrecte vis-à-vis de votre administration, l'agitation que vous tentez de maintenir dans la commune, la réunion à laquelle vous êtes allé participer à Paris dans la pensée d'une revanche sur la condamnation prononcée contre vos méthodes pédagogiques par le conseil départemental ont dû être considérées par monsieur l'inspecteur d'académie et par moi-même comme autant de raisons pour que, dans l'intérêt même de l'école laïque, que vos agissements risquent de compromettre, vous ne soyez pas maintenu à Saint-Paul. » La réponse de Freinet ne tarde pas. Niant toutes ces accusations, il ironise. « Quant à savoir si ma présence à Saint-Paul risque de compromettre l'école laïque, il me suffira de caractériser les partis en présence. Contre moi, les royalistes, les curés et tous cléricaux, le journal L'Éclaireur de Nice. Pour moi, tous les partis de gauche, la Ligue de l'enseignement, la LDH, tous les syndicats d'instituteurs. » L'avis définitif de nomination dans une nouvelle école arrive quand même. Ce sera Bar-sur-Loup, comme un retour aux sources, puisqu'il s'agit de son premier lieu d'affectation. La réaction de Freinet ne se fait pas attendre. Pour lui, il s'agit là d'un important préjudice, car, blessé de guerre et handicapé à 70%, cela l'éloigne de Nice et l'affecte surtout dans une région au climat humide et déconseillé pour sa santé. Il se pourvoit en appel, mais l'appel est rejeté le 25 juillet. Freinet se rend donc à Bar-sur-Loup, y donne un cours le 29 juillet grâce à ses anciens élèves qui lui ont apporté son vieux matériel d'imprimerie. Mais il constate sur place que son logement n'est pas libéré. Toute occasion de protester étant bonne à prendre, débute alors un nouveau bras de fer, cette fois autour du logement. Le ton des échanges entre Freinet et l'inspection académique se tend. Il s'étonne du peu de considération qu'on lui porte, comparé aux égards dont bénéficient d'autres instituteurs et alors même qu'il est blessé de guerre. L'inspecteur d'académie répond dans un courrier adressé à Célestin Freinet, directeur à Bar-sur-Loup en vacances à Saint-Paul. « Je vous invite une fois pour toutes à changer le ton de vos lettres, à perdre l'habitude de m'adresser vos critiques et à vous dispenser d'émettre des insinuations ou des appréciations gratuites du genre de celles que je trouve dans le dernier alinéa de votre lettre. » Freinet se pourvoit en cassation contre sa mutation d'office et ne rejoint pas Bar-sur-Loup. Arguant de sa santé, il commence par prolonger son congé de 6 mois, avant de demander sa mise à la retraite le 21 février 1934, puis de prolonger à nouveau son congé en mars avec l'appui du docteur Audion, qui, attestant de sa fatigue physique comme morale, applique la loi qui donne la possibilité aux invalides de guerre de bénéficier d'un congé de 6 mois renouvelable sur 2 ans à plein traitement. Dans l'éducateur prolétarien, Freinet écrit « Nous sommes vaincus politiquement. C'est un fait que nous constatons sans aucune amertume ni fausse pudeur, car nous ne nous sommes jamais fait d'illusions exagérées sur l'énergie administrative de ceux qui devraient être les défenseurs naturels de l'école. Affaibli, fatigué, le couple quitte Saint-Paul pour s'installer à la campagne, aux environs de Vence, dans le quartier du Pioulier. » Je vous invite à lire ce captivant essai qui pose des questions d'actualité sur l'école. La politique menée à l'école, la montée du fascisme, la parole des enfants, la gauche et la question de la violence, et tant d'autres questions encore. Au milieu des années 70, j'ai été élève en maternelle dans une école Freinet. Elle était située dans l'Université Paris 8, quand elle était encore à Vincennes, et ouverte à tous les enfants des personnels de l'université, aussi bien les femmes de ménage que les professeurs d'université. Cette école nous accueillait de 6h du matin jusqu'à au moins 20h. J'y ai appris d'abord à travailler, à chercher à comprendre, à être curieuse de tout, à avoir un esprit critique en permanence. J'y ai appris la tolérance, la coopération et l'autonomie. Les adultes écoutaient les enfants. Je détestais dormir l'après-midi et je me souviens que j'avais obtenu le droit de ne pas dormir, à condition de n'avoir aucune saute d'humeur et d'organiser mes après-midi. J'avais 4 ans, je l'ai fait. J'ai adoré ces temps où j'étais seule dans la salle de classe et où je m'occupais. L'entrée en CP, dans une école normale, a été un choc et une violence inouïe dont je crois que je ne me suis jamais remise. Cette expérience fondatrice a fait de moi une élève jugée peu scolaire, alors que j'adorais apprendre. Beaucoup plus tard, j'ai essayé de reconstruire, pour mes élèves, en particulier avec l'option cinéma, ce paradis perdu à l'intérieur de l'école publique. Une pédagogie pour tous, à l'écoute des enfants, qui leur donne la parole, mais aussi très exigeante. Le témoignage récent d'un ancien élève, aujourd'hui directeur de cinéma, me fait penser que j'ai réussi. J'ai eu une grosse pensée pour vous jeudi dernier. J'ai accueilli au cinéma une séance spéciale où des collégiens ont réalisé un court-métrage dans le cadre du concours national de la résistance. La professeure des élèves était présente et était émue de la réalisation et du chemin parcouru pour en arriver à ce cours. Ça m'a touchée. J'ai retrouvé l'énergie de la découverte des courts-métrages de l'option cinéma, de ce moment où nous avions découvert Coquille vide au cinéma. La même énergie, une professeure aimée de ses élèves, émue devant tout cela, avec des élèves qui aiment beaucoup la professeure. Je me suis dit que tout ce que vous nous avez enseigné, cela a trouvé un aboutissement. Je ne sais pas combien, ni comment, mais je pense qu'on vous doit tous les remerciements possibles. C'était ma rencontre avec la pédagogie Freinet et Laurence de Coque.